Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce lundi 4 avril avec le journal de Sébastien Lejeunie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel ce soir commence par un président qui dénonce des crimes de guerre.
Le président ukrainien s'est rendu aujourd'hui sur le site de Boutcha, première sortie de Kiev depuis le début de la guerre. Volodymyr Zelensky, persuadé que ce massacre de plusieurs dizaines de civils sera reconnu, je cite, comme génocide. Nos envoyés spéciaux étaient sur place. Leur reportage dans un instant. Après ce drame, les Occidentaux veulent une enquête et plus de sanctions contre Moscou. Réunion en urgence aujourd'hui à Bruxelles. Mais les Allemands refusent toujours tout embargo sur le gaz russe. Nous serons à Berlin. À suivre aussi le rapport du GIEC sur les solutions face au réchauffement climatique. Quelles solutions également face au gel qui menace encore cette nuit les vergers dans l'Hexagone. Et pour finir, une campagne de dons de la moelle osseuse. On a besoin de jeunes et d'hommes.
À 18h15, un jour dans le monde et Boutcha, bien sûr, qui secoue la communauté internationale qui appelle à de nouvelles sanctions promise par l'Europe et les États-Unis. On y viendra dans un instant. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ça freinerait Vladimir Poutine? Nous parlerons évidemment de crimes de guerre ou comment les collecter pour après. À 19h20, c'est le téléphone sonne et ce soir on parle abstention avec nos partenaires Ipsos et Soprasteria qui fixent donc ce taux d'abstention à un instant T autour de 30%. Ce serait un record pour la 5e République. Est-ce qu'on peut imaginer un retournement dans les 5 jours qui viennent? Un chiffre qui bouge drastiquement. Est-ce que ces 30% nous parlent de 7 campagne que beaucoup ont trouvé morne, parce qu'il nous parle d'un système qui est à bout de souffle. À vous de nous le dire au 01 45 24 7000.
France Inter.
Sa visite n'aura duré que quelques minutes.
Le président ukrainien était donc sur les lieux du drame de Boutcha aujourd'hui. Volodymyr Zelensky, le visage fermé, entouré de ses gardes du corps, face aux horreurs de la guerre et face à l'une des scènes les plus tragiques de ce conflit commencé il y a 39 jours. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Sébastien.
Vous étiez aujourd'hui avec d'autres journalistes dans la ville de Boutcha, aux côtés de ce président donc sur le terrain qui pour la première fois a pris le risque de sortir de Kiev en plein jour.
Oui, une visite à Boutcha sous très haute sécurité, hein, avec autour du président, habillé comme toujours en kaki, les forces spéciales ukrainiennes. Quelques minutes avant son arrivée, tout le monde a été scrupuleusement fouillé et puis soudainement, le réseau internet et téléphonique a été coupé afin de parer tout risque de bombardement ou d'envoi de missiles. Volodymyr Zelensky a rencontré des habitants traumatisés puis s'est exprimé pendant une douzaine de minutes.
Ce sont clairement des crimes de guerre et le monde entier va considérer que c'est un génocide. On voit que des milliers de gens ont été exécutés, torturés, les membres coupés, les femmes violées, les enfants tués. C'est cela un génocide.
Voilà, le président Zelensky ce matin à Boutcha. Thibault, vous avez pu vous rendre également dans les rues de la ville à la rencontre des habitants, encore sous le choc de cette tragédie.
Alors, il n'y a plus aujourd'hui de corps gisants dans les rues, mais à l'intérieur des petites cours, des maisons complètement ravagées par les bombardements. Des cadavres attendent encore d'être ramassés. Valentin montre du doigt deux sacs mortuaires tout juste refermés.
Ce sont des amis qui sont arrivés à la maison. Ils se sont cachés ici, dans ma cave. Un jour, ils sont sortis, se sont fait tirer dessus et sont morts. Ils leur ont tiré en pleine tête. Pourquoi ? Pourquoi ?
En milieu d'après-midi, ces deux victimes de plus du massacre de Boutcha ont été disposées à l'arrière d'un utilitaire. Elles devraient être enterrées dans une des trois fosses communes creusées depuis la semaine dernière.
Thibault Lefebvre avec Benjamin Thiot en direct de Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, ce sont près de 300 personnes qui auraient été enterrées dans des fosses communes à Boutcha. Le président américain Joe Biden, lui, veut un procès pour crime de guerre. La Russie rejette catégoriquement toutes les accusations et dit avoir découvert des signes de falsification vidéo dans les images présentées par les Ukrainiens. Puis autre ville martyre, la ville de Mariupol, détruite selon son maire à 90%, 130 000 habitants y restaient toujours bloqués. Le drame de Boutcha a décidé les Européens à prendre un nouveau train de sanctions contre la Russie, le 5e. Ces nouvelles rétorsions économiques pourraient intervenir dans la semaine en urgence avec au cœur des discussions un embargo sur le pétrole, le charbon et le gaz. Sauf que la question du gaz russe reste toujours aussi sensible, notamment en Allemagne, où la possibilité d'un embargo sur cet hydrocarbure reste inenvisageable pour le moment. À Berlin, les explications, notre correspondant Ludovic Piétenu.
Couper le robinet gazier du jour au lendemain, ce serait une folie économique pour l'industrie allemande. 3 points de croissance de perdu selon des estimations. Ce serait aussi dangereux pour la cohésion sociale, expliquait hier soir plusieurs responsables de partis politiques à gauche comme à droite et des membres du gouvernement, tous à l'unisson pour se passer de la Russie, mais pas tout de suite. Il n'y a que la ministre de la Défense, du parti social-démocrate comme le chancelier Olaf Scholz, qui estime le contraire. L'Allemagne verse donc encore chaque jour à la Russie l'équivalent de 200 millions d'euros pour son gaz, son pétrole et son charbon. Nous poursuivons une stratégie visant à nous rendre indépendants, mais d'ici à la fin de l'année, a redit hier soir le vice-chancelier écologiste Robert Habeck, tout à la fois ministre de l'économie et de la protection du climat. Son collègue des finances, le libéral Christian Lindner, considère qu'un embargo nuirait davantage aux Européens qu'à la Russie. Nouvelle réaction très agacée de l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, la politique allemande envers Moscou est une catastrophe, estime le diplomate. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Comment limiter le réchauffement climatique? Le GIEC rendait aujourd'hui son rapport.
Le troisième rapport des experts du climat de l'ONU après 4 années de travail, après le constat alarmant sur l'accélération du réchauffement de la planète, après l'estimation de l'impact sans précédent sur l'humanité. Voici donc venu le temps des solutions préconisées par le GIEC, des solutions radicales et urgentes pour rester sous les 2 degrés à la fin du siècle, c'est-à-dire largement en dessous du premier objectif des 1,5 degré. Eh bien, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 27% en 2030 par rapport à 2019. Les options existent, dit un des 2 auteurs de ce rapport, mais elles ne sont que trop peu appliquées, selon Franck Lecoq.
On dispose dès aujourd'hui d'options dans tous les secteurs pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Dans l'énergie, c'est bien sûr des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, dont les coûts ont diminué de 85% en 10 ans, ce qui est considérable. On peut miser aussi, pas seulement sur des technologies, mais aussi sur des changements dans les modes de consommation, dans les infrastructures. Par exemple, le fait d'avoir des villes un peu plus compactes, rapprocher les gens du lieu de travail et donc limiter la demande de transport qui est associée. De façon globale, il est clair qu'il va falloir réduire de façon drastique la consommation de combustibles fossiles. Donc ça passe par le fait de lever un certain nombre de barrières. Il y a bien sûr le financement, c'est très important de dire que les ressources existent, mais il faut les amener plus vers des projets qui tendent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais les barrières sont aussi plus d'ordre institutionnel, coordination par exemple entre les différentes agences publiques ou entre les différents échelons. Et le rapport montre que dans le monde entier, ces barrières institutionnelles sont aussi extrêmement fortes.
Franck Lecoq, l'un des 2 auteurs du dernier rapport du GIEC avec Sandy Dauphin. Et parmi les dérèglements climatiques du moment, ces vagues de froid qui suivent des fins d'hiver très douces. Exemple avec ces températures qui plongent en France depuis la semaine dernière, moins 9,3 degrés à Mourmelon dans la Marne la nuit dernière, la nuit la plus froide depuis 1947. Et ce n'est pas fini, certaines régions s'inquiètent encore de la nuit à venir. Le bilan pour le moment reste parcellaire, certains arboriculteurs parlent de 30 à 50% de pertes dans leurs vergers, au point que certains se demandent s'ils ne vont pas investir pour les prochaines années qui viennent dans des technologies plus efficaces que les traditionnelles bougies. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
Comme l'aspersion par exemple des cultures avec de l'eau.
Oui, moins 4,9 degrés pour de matière, moins 5. Pascal Brosse a bien vu que l'épisode allait faire du dégât dans son verger de Saint-Paterne-Racan en Indre-et-Loire, mais pas autant que les 10 jours de gel d'avril de l'année dernière quand même. Beaucoup de ces poiriers ne donneront pas de poire cet été.
Avec la chaleur qu'on a eu la dernière semaine de mars, ça a avancé la floraison des poiriers. Il gèle quasiment pas de l'hiver, puis il se met à geler au mois d'avril quand tout est en fleurs. C'est nouveau, ça.
Alors, comment s'en prémunir? Les bougies, les bras zéro avec des éoliennes, le plus efficace, c'est l'aspersion, donc aussi bien pour les arbres fruitiers que pour la vigne. L'eau enrobe les bourgeons d'un glaçon qui les protège, mais tout cela coûte très cher, 25 à 30 000 euros l'hectare pour équiper les parcelles. Idem pour les fils chauffants. En Indre-et-Loire, 2 propriétés ont testé des voiles d'hivernage sur les vignes ce week-end. Efficace, au coût raisonnable, mais long à déployer et puis interdit pour l'instant dans l'appellation. Autre piste dans la viticulture, des changements de porte-greffe. Les actuels résistent au phylloxéra, c'est historique. Peut-être faut-il en chercher d'autres, explique Nicolas Pichard de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire.
Aujourd'hui, ces porte-greffes qui ont été historiquement implantées pour différents objectifs ne sont pas forcément adaptées à la météo actuelle. Il faudrait arriver à utiliser peut-être des porte-greffes peut-être beaucoup plus longs en termes de cycle, donc qui débourrent plus tard et qui peuvent potentiellement aussi donner des récoltes un peu plus tardives aussi. Ça permettrait un petit peu de trouver déjà un bon compromis.
Autre piste encore, tailler la vigne et les fruitiers plus tard, mais évidemment, il faut en avoir la main d'œuvre. Tailler toutes les parcelles en mars, c'est impossible pour beaucoup de vignerons et d'arboriculteurs.
Béatrice Duguay, la campagne présidentielle en bref. Maintenant, Valérie Pécresse arrive bientôt en Guadeloupe. Éric Zemmour lui privilégie les passages médias en ce début de semaine décisive. Interrogé ce matin sur France Info sur son choix dimanche à 20h02, si Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au second tour, le candidat a esquivé. Éric Zemmour, toujours sur France Info, qui s'en est pris à la PMA pour toutes, promettant d'abroger la loi s'il était élu. Pour avoir un enfant, il faut un père et une mère, justifie-t-il, reprenant le slogan de la manif pour tous. Rappelons que Marine Le Pen, elle, propose un moratoire de 3 ans sur toutes les questions sociétales. Nouveaux appels à manifester ce soir en Corse, devant les commissariats de Bastia et d'Ajaccio. Et cela au lendemain d'une manifestation pour Yvan Colonna qui a fait 27 blessés, dont 15 parmi les manifestants. Des violences jugées inacceptables par l'Elysée. La réunion envisagée vendredi à Paris entre les élus corses et le gouvernement sur l'avenir institutionnel de l'île est reportée. On en vient maintenant à cette question. La France va-t-elle dans l'avenir pouvoir encore juger des crimes de guerre commis en dehors de son territoire? On appelle cela la compétence universelle des tribunaux. Plusieurs pays comme l'Allemagne ou la Belgique l'utilisent régulièrement, notamment dans le conflit actuel en Ukraine. Mais en France, des dizaines de dossiers en cours sont menacés. La Cour d'appel de Paris était appelée à trancher aujourd'hui cette question dans le dossier d'un ex-rebelle islamiste syrien poursuivi pour torture et crimes de guerre. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
La Cour d'appel maintient les poursuites, mais l'affaire pourrait encore rebondir en cassation.
Oui, les ONG de défense des droits de l'homme avaient très peur que cet arrêt de la Cour d'appel de Paris aille dans le même sens que celui de la Cour de cassation rendue en novembre dernier dans une autre affaire d'accusation de crimes contre l'humanité, là encore commis en Syrie. La Cour de cassation avait annulé toutes les poursuites contre un ancien soldat syrien resté fidèle, lui, à Bachar al-Assad, et que cela fasse jurisprudence. Eh bien, cet après-midi, les magistrats de la Cour d'appel de Paris ont choisi une autre voie juridique, une autre solution. Ils ont estimé que la justice syrienne elle-même, dans son code pénal, poursuit ce genre de crime. Et c'était, selon la Cour d'appel de Paris, l'un des critères de la loi votée à l'Assemblée nationale en août 2010, qui permet de poursuivre en France, vous l'avez dit, des hommes, des femmes suspectés de crimes de guerre, à condition également qu'ils aient séjourné en France. Cette décision va pour l'instant permettre de redémarrer les investigations sur ce dossier, mais les avocats de Madji Nema ont déjà annoncé qu'ils se pourvoyaient en cassation. Ce sera dans plusieurs mois, mais avec à nouveau cette épée de Damoclès pour savoir si des tribunaux en France peuvent encore bénéficier de cette fameuse compétence universelle.
Emmanuel Leclerc du service police-justice.
Et on termine avec cette nouvelle campagne pour le don de moelle osseuse.
Les dons de moelle étaient en hausse l'an dernier, mais les demandes et les greffes le sont aussi. C'est pourquoi l'agence de biomédecine lance un nouvel appel aux dons, essentiellement sur Internet, à la fois pour toucher les donneurs potentiels, plus jeunes, mais aussi pour faire de la pédagogie.
Le 13 janvier, les parents de Joseph, 3 ans, atteints d'une grave leucémie, lancent sur les réseaux sociaux un appel pour trouver un donneur de moelle osseuse compatible. Le message va faire des millions de vues, de reprises et un pic d'appels auprès de l'agence de biomédecine. Après 91 000 demandes de préinscription, un constat: les personnes volontaires n'ont pas du tout conscience de la réalité du don de moelle osseuse. Le docteur Evelyne Marie est la directrice du prélèvement et de la greffe à l'agence de la biomédecine.
Le don n'est pas immédiat, on s'inscrit, on attend et peut-être un jour on donnera à un patient qu'on ne connaîtra jamais. Là, les personnes voulaient donner pour le petit Joseph, clairement.
Alors aujourd'hui, place à la pédagogie. Si les élans de solidarité ont toujours existé et existeront toujours, il est important de tenir un registre d'inscription du don de moelle osseuse de qualité, insiste le docteur Marie.
Quand un de nos donneurs est sollicité pour un patient, où qu'il se trouve dans le monde, il va jusqu'au bout. Nous n'avons pas à répondre à « désolé, il a demandé à être retiré du registre, ça ne l'intéresse plus de donner sa moelle osseuse, etc. » Ce sont des gens extrêmement impliqués.
Pour s'inscrire sur le registre, il faut avoir moins de 35 ans. L'agence cherche plus particulièrement des hommes, actuellement sous-représentés, et des personnes issues de la diversité pour mieux répondre aux demandes des médecins greffeurs.
Anne Orenstein, il y a actuellement 338 000 personnes inscrites sur le registre des donneurs.
Et merci beaucoup, Sébastien Legénie.